Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 206 du podcast Dunk Hebdo. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, pour m'accompagner cette semaine. Alors l'équipe est élargie, mais là on enregistre un peu en confidentiel puisqu'on est que deux et j'ai Tom pour m'accompagner. Ça va Tom?
Oui, ça va et toi?
Très très bien Tom, et surtout ça faisait longtemps. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enregistré tous les deux.
Ouais, retour de la West Indies Connection, écoutez.
Ouais, ça faisait, mais on en a parlé avant de commencer, ça faisait peut-être quelque chose comme 6 mois minimum, c'est une éternité.
Ouais.
Alors, et tu auras remarqué que l'introduction n'est pas aussi incroyable que celle que peut faire Adrien, tu vois, j'essaye d'apprendre du maître,
je vais essayer de m'améliorer.
Cette semaine au programme, alors bien sûr, hein, on continue d'essayer de trouver des sujets malgré la morne plaine qu'est l'actualité NBA en ce moment. Le DH20, on vous en avait parlé il y a de cela quelques semaines, notre classement des 20 joueurs NBA cette année pour la deuxième édition, donc réactualisé. Dans cet épisode, on va pas revenir sur les 20 premiers, mais on va faire la première moitié, bien sûr dans l'ordre inverse, on va pas tout de suite révéler qui finit premier. On va aller de 20 à 10 en parlant aussi des joueurs qui n'ont pas intégrer ce top 20 et aussi des joueurs voilà qui y étaient en 2019 et qui n'y sont plus maintenant en 2020. On va faire ça juste après la pause. Avant ça, le rappel, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, principalement Twitter. Voilà, on a assez discret sur Facebook pour être honnête. Et aussi à nous noter sur les plateformes de streaming parce que Tom, ça fait un paquet de semaines que je vois ce compteur iTunes bloqué à 148 ou 149. Je t'avoue que mon côté un peu monk aimerait bien que ça dépasse 150.
Côté monk, ouais, j'avais oublié ton côté monk.
Mon côté monk fait que 150, voire 200. Hein. Si j'étais vraiment monk, je voudrais 200. Mais allez, 150, ça serait parfait. Puis nous, on se retrouve juste après la petite pause pour discuter du DH20. Le DH20, notre classement des 20 meilleurs joueurs NBA sur la forme actuelle, et c'est à peu près la seule règle, Tom, ce qui fait qu'on verra parfois que, selon, je pense, les goûts des votants, bah, certains joueurs peuvent se retrouver très haut et on peut comprendre les dynamiques derrière, et d'autres plutôt bas et on peut aussi comprendre les dynamiques derrière. Avant de parler de ce top 20, on va peut-être parler, Tom, des joueurs qui ont pas fait le cut, comme on dit, qui ont pas réussi à rentrer dans le top 20. Il y en a beaucoup, mais on va peut-être se concentrer sur les 5-6, voilà, marquants qui ne l'ont pas fait. Mais avant ça, on va peut-être commencer sur même des joueurs encore plus surprenants, c'est ceux qui n'ont pas reçu de vote, alors que ça reste quand même des figures NBA. Draymond Green et Bam Adebayo, par exemple, n'ont pas reçu de vote. Tom, allez, je vais te lancer sur une question à la first take. C'est quoi qui te surprend le plus, Bam Adebayo ou Draymond Green?
Moi, ce qui me surprend le plus, c'est vraiment Bam Adebayo par rapport à la saison qu'il a faite cette saison. Enfin, tu peux clairement dire que cette saison il a été c'est un top 5 pivot NBA quoi. Il est juste derrière entre guillemets les quatre monstres que sont Rudy Gobert, Nikola Jokic, Joel Embiid et Karl Anthony Towns. Donc je pense que c'est assez surprenant en fait de pas le voir même mentionné une fois, alors que tu as par exemple des fois tu as des votes pour DeMar DeRozan ou ce genre de joueurs qui ont un impact moins grand. Draymond, je suis pas surpris vraiment qu'il ait pas de vote, puisque voilà la saison des Warriors, enfin je pense que on l'a un petit peu oublié dans le contexte de Golden State, et je pense que vu que c'est un joueur qui performe plus et du moins qui a des capacités, enfin ses skills correspondent plus à ce que tu vas retrouver en playoff, le fait que voilà Golden State ça a été très calme cette saison, il y avait pas de Stephen Curry pendant longtemps, il y avait pas de Klay Thompson pendant longtemps, mais du coup on a un peu oublié Draymond Green et les gens ont moins regardé les Warriors tout simplement.
Ensuite, pour continuer sur Draymond Green, je pense aussi que de base, c'est quand même un joueur qui divise.
Ouais.
Qui divise le nombre de débats qu'on a eu, même à l'intérieur de la rédac, sur le vrai niveau d'un Draymond Green. C'est pas surprenant que dans une année, comme tu l'as dit, un peu difficile pour les Warriors, alors qu'il était 17e du classement l'année dernière, bah, il trinque. Mm-hmm. Alors, de là à pas le voir cité, Peut-être que oui, tu l'as dit, la saison des Warriors, le contexte fait que, parce que on n'est pas des machines, hein, ça peut arriver que voilà, quelqu'un remplisse le classement et l'oublie un joueur, ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Mais c'est sûr que sur un tel volume, c'est peut-être aussi voilà que le joueur est de un pas apprécié, de deux, il y a toujours eu un débat autour de son niveau, et puis de trois, bah l'équipe est pas au
même niveau. L'équipe n'est pas au même niveau. Ouais, elle n'est pas médiatisée aussi.
Pour Bam Adebayo, je pense déjà que peut-être il est pas même. Idée, il est peut-être pas encore dans la... Quand tu dis 20 meilleurs joueurs NBA, c'est peut-être pas le joueur auquel tu penses le premier. Et puis surtout, clairement, et c'est un débat qu'on aura un peu plus tard, son poste.
Ouais, il est pas flashy, bam, c'est pas un joueur... Enfin, il fait quelques trucs, mais tu vois, c'est pas quelqu'un qui va dominer par des ralentis phénoménaux c'est pas le mec qui va te sortir du pull-up à 3 points. Il va être très intéressant dans tout ce qui est défensif. Il a flashé un bon jeu de passe aussi cette saison. Il s'est vraiment développé comme un créateur secondaire même pour cette équipe de Miami avec un jeu autour de Jimmy Butler et plein de joueurs qui sont capables de shooter. Donc voilà, surtout c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu. En fait, c'est pas une évolution qui était prévue pour Bam Adebayo, ce qui fait que même lui, il était dans nos mentions pour le trophée de MIP, si je me souviens bien.
Totalement, totalement. Tom, on a parlé de Bam Adebayo et de Draymond Green. Un autre joueur, je pense, qui rentre dans cette veine, c'est John Wall.
Ouais.
John Wall qui n'a pas reçu un seul vote et qui est quand même, et là c'est incroyable, même s'il faut se rappeler que le précédent classement date de 2019, mais la plupart des votes avaient été récoltés à la fin de l'année 2018.
Ouais.
Donc on est sur quelque chose qui a 18 mois en gros. Mmh. John Wall était 9e du précédent classement. Mmh. Il n'a pas reçu un vote. Alors moi perso, je pense que c'est juste... Alors c'est difficile parce que c'est un joueur voilà qui a connu des gros problèmes de blessures récemment. Mais je pense qu'en fait c'est tout simplement en rapport avec son vrai niveau dernièrement. Il avait rien à faire dans le top 10 l'année dernière.
Ouais, c'est vrai. Bon, après, c'est vrai que le moment où on avait fait le vote, c'est le moment où justement il signe le contrat pour son extension et où il y a le match qui est passé du coup, qui était disponible sur YouTube hier soir du coup, son match où il force le Game 7 contre Boston pour essayer d'aller en finale de conférence. Donc, voilà, c'était à ce moment-là. Et puis John Wall, voilà, je pense que c'est dommage. Je pense que c'est un joueur qui est oublié, tout simplement parce qu'il était déjà moins bon au moment de se blesser, parce qu'il est blessé et parce qu'il a un gros contrat. Et je pense que c'est un joueur qui est oublié, mais c'est vrai que ne pas le retrouver dans le classement, pour moi, c'est pas surprenant. Et le fait qu'il n'ait pas de vote, c'est pas surprenant non plus.
Mmh. Puis pour finir peut-être cette case des absents de l'année dernière... Isaiah Thomas, là, c'est pas non plus, on va être honnête. Hein, là, c'est pas, enfin, quand même, pour être top 20 NBA, faut quand même être ne serait-ce que titulaire, c'est quand même.
Ou être un premier.
Être un NBA aussi, c'est quand même une des premières cases du cahier des charges. Citer aussi DeMarcus Cousins, là, on a quand même beaucoup de joueurs sur un peu le même pattern, un peu, enfin, la descente aux enfers ou les soucis de blessure. DeMarcus Cousins qui a obtenu dans tous nos votes, une pauvre 18e place dans un classement, autrement totalement absent. Il était 15e l'année dernière. Et puis enfin, là, c'est peut-être plus discutable parmi les 5 joueurs qui étaient présents l'année dernière et absents cette année. Blake Griffin, qui a reçu des votes et qui, même s'il est pas dans le mien, c'est un joueur qui, enfin voilà, aux alentours de la 30e, pour moi, est tout à fait, voire plus haut, c'est pas fou de le voir là. Enfin, c'est justifiable.
Ouais. Bah après, le truc, c'est que, tu vois, c'est là que tu vois que la saison a clairement joué, hein, parce que, à la fin de la saison dernière, Blake Griffin, je pense qu'il est dans le top 20 tous les jours, je pense, vu le calibre, en fait, de la saison qu'il a réalisé à Détroit la saison dernière, quoi. Enfin, il était tout simplement exceptionnel. Et là, le fait qu'il ait été blessé tôt, que Détroit, ça n'allait pas bien, qu'il restructure, qu'il n'y ait plus de Drummond et tout ça, ben, je pense que c'est, voilà, les blessures aussi ont fait que c'est un joueur qui a été oublié. Du coup, il a pas reçu beaucoup de points, puisque c'est un système à points. On expliquera après pour ceux qui sont dans le classement comment ça s'est déroulé. Et je pense que ça joue beaucoup, en fait. Le fait que tu joues pas, ben, on t'oublie.
Totalement, totalement. On remonte un peu le classement. Je vais les appeler les meneurs ou les... Enfin, c'est très dur de dire ça, mais peut-être les seconds couteaux de l'Est. On a un trio Middleton, Kemba, Lowry. Clairement, des bons joueurs, hein, mais là encore, moi, je suis pas vraiment surpris. On va peut-être revenir sur un autre joueur qui les a supplantés. C'est peut-être là la surprise. Mais c'est des joueurs que je suis pas encore surpris de voir, de pas voir dans le top 20. C'est, encore une fois, pour moi, on est sur le calibre de joueurs très grosse seconde option ou première option d'une équipe sans trop d'ambition. Donc, quand t'es un, ce type de joueur-là, tu te situes entre quoi? Tu te situes entre 25 et 35?
Ouais, 25, c'est 30, pas... ouais, top 30.
Mmh. C'est plutôt logique. On peut continuer, on continue à remonter les classements. Le duo d'Utah. Ouais. Gobert-Mitchell. Gobert-Mitchell, je pense que eux, et je pense surtout à Donovan Mitchell, c'est parmi peut-être ces joueurs qui payent le fait qu'on n'ait pas eu de série de playoffs. Parce que on fait ce classement-là, peut-être après des séries de playoffs, c'est typiquement le type de joueur qui, pour moi, aurait pu gratter quelques places sur une série de playoffs.
Ouais, typiquement, ouais. Puisque c'est un joueur qui a un jeu qui se prête bien à ça. Et puis même Gobert, tu vois, Gobert qui redescend un petit peu du classement, puisque il était souvent mentionné un petit peu plus haut, hein, Rudy Gobert. Et voilà, c'est le défenseur de l'année en titre. Et tu te dis, le mec, c'est probablement le meilleur défenseur intérieur de la ligue. Alors que le poste 5, c'est une position défensive et il est pas dans le top 20. Donc ça te donne vraiment une idée de comment les gens qualifie, en fait, évalue son apport au jeu. Et en fait, le Jazz a réussi quelque chose de super intéressant cette saison, c'est que le Jazz était une équipe défensive qui est devenue une équipe offensive sans forcément trop perdre défensivement. Et ça, je pense que c'est beaucoup grâce à Rudy Gobert. Et c'est un type de joueur qui te permet de changer d'identité sans forcément sombrer d'un côté ou de l'autre. Et ça, je pense que c'est quelque chose, c'est une valeur qui est très bonne. Enfin, c'est une valeur qui est, c'est quelque chose qui a de la valeur, mais qui est pas forcément reconnu en fait dans son jeu.
Pour moi, il y a une double, on pourrait dire, par rapport à Gobert, c'est un double exemple pour l'image qu'on se fait du poste de pivot et l'image qu'on se fait de la défense. Pour moi, ouais. il englobe deux dimensions, Rudy Gobert. C'est de un, on le verra, on l'a déjà dit, les pivots qui payent et qui sont pas, enfin, on a l'impression, pour être un pivot, voilà, petit teaser, top 10, il y a un joueur qu'on peut qualifier de pivot, à part ça, c'est mort de plaine. Ouais. Personne n'est dans le top 10 niveau pivot. Et même au niveau du top 20, ils ont du mal à un peu rentrer dedans. Mm-hmm. D'ailleurs, enfin, pour être tout à fait honnête, enfin, Gobert se situe aux alentours de la 25e place. Devant lui, il y a que 4 pivots.
Ouais.
Top 25, ouais. 4 pivots. Ouais. Enfin, ça vous donne une petite idée. On peut continuer à remonter. Alors, c'est un peu difficile de classer ces quatre-là, mais on va en parler. C'est les quatre joueurs avant l'entrée dans le top 20. On va dire peut-être jeune garde qui a pas encore prouvé. Je pense que c'est surtout le cas d'un Devin Booker qui, pour moi, est coltiné à cette place-là juste parce qu'il a jamais joué en playoff.
Ouais. Alors qu'il a beaucoup progressé, hein. Il a vraiment beaucoup progressé, même cette saison. Hein. Phoenix a fait un bond cette saison, et c'est aussi grâce à Booker. Et ben, malheureusement, le fait qu'il n'y ait pas de play-off, en fait, tu vois, c'est un peu le plafond de verre auquel il va se heurter, un peu comme un joueur dont on a parlé un petit peu avant le podcast, qui est dans le top 20, qu'on va certainement mentionner.
Ouais, totalement. Mais même moi, tu vois, personnellement, je ne sais pas toi, Tom, il y a un moment où j'ai du mal à... tu peux être très très bon. Enfin, on va parler des joueurs au-dessus. La plupart ont un CV en playoff.
Ouais.
Et c'est quand même, quand on parle top 20 NBA, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important.
Ouais, 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 t'as raison. On parle des joueurs qui font la différence au plus haut niveau, quoi. Le top 20, c'est vraiment le gratin, même si, bon, tu vas me dire que le top 5, c'est vraiment le gratin du gratin du gratin. C'est vraiment l'élite des joueurs NBA. Mais, enfin, dans le top 20, top 25, ce sont des gars qui sont, qui peuvent potentiellement être, par exemple, le deuxième meilleur joueur d'une équipe qui a l'avantage du terrain, quoi.
Ouais, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Une équipe qui peut passer un, deux tours.
Voilà, c'est
donc,
ça.
Donc, quand t'as jamais été en playoff, c'est un peu difficile. Un joueur, je vais passer sur le 21e et le 23e, je vais les faire ensemble, parce que c'est intéressant de parler de ça par rapport à Booker, parce qu'à la 22e place, on voit Trae Young. Alors, je sais, là, c'est le problème d'être à deux, c'est que des fois, on va un peu se rejoindre sur des avis. C'est très, très haut, quand même, pour Trae Young. C'est extrêmement haut pour un joueur qui, alors, je vais pas tomber dans la caricature, mais produit dans une équipe où il y a, enfin, empty stats, comme me disent les Américains, selon moi. C'est des stats, voilà, gargantuesques, mais c'est dans une équipe sans ambition. Toujours des problèmes, et moi, je persiste et signe sur ces problèmes qui seront, selon moi, qui vont lui poser d'énormes soucis en playoff. Il a jamais joué les playoffs. Il a jamais, ne serait-ce que même, été dans le top 10 de sa conférence.
Ni un bilan positif non plus.
Enfin, ni un bilan positif. Bon, après, alors bien sûr, les résultats collectifs, les résultats collectifs, c'est une stat collective, mais c'est pour juger de ce gratin des joueurs, il faut de l'opposition. Enfin, il a jamais joué un match important dans sa vie pour l'instant en NBA, Trae Young.
Pour moi, c'est beaucoup trop tôt. On peut dire limite le match le plus important qu'il ait joué, c'est l'All-Star Game. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est le match le plus important qu'il ait joué. Alors que c'est un match qui a pas vraiment, enfin, de valeur entre guillemets terrain. Même si bon, tu te confrontes à l'élite de la NBA, mais c'est pas. Je trouve que c'est pas là en fait où les joueurs se donnent à 100%. C'est pas là où tu vois qui est vraiment le boss, quoi, qui sont vraiment les patrons. Et tu vois, par exemple. Moi, ça me choque vraiment de voir, par exemple, quelqu'un comme Trae Young devant Kemba Walker, devant Kyle Lowry, même devant Jrue Holiday. Tu vois, Trae Young, enfin, pour moi, ces gars-là ont accompli tellement de choses. Ils sont, enfin, voilà, ils ont déjà prouvé des choses en playoff. Ils ont déjà les, comment dire. Tu vois, c'est pas parce qu'ils font pas plus de stats qu'ils sont pas meilleurs que lui, en fait. Et pour moi, ce sont des joueurs qui sont bien meilleurs. C'est-à-dire que peut-être qu'ils vont produire moins statistiquement, mais ils vont coûter beaucoup moins à l'équipe et ils seront dans de meilleures équipes, tout simplement parce que ce sont de meilleurs joueurs.
Je pense, sur Trae Young, on va en parler, il y a un peu la... Voilà, la... c'est comme, tu vois, la pâte pour faire enfler le gâteau. La levure des jeunes années. C'est que quand tu es un des jeunes joueurs, je trouve, et c'est le cas... C'est le cas d'autres joueurs dont on va parler plus haut. Quand t'es un jeune joueur que tu produis beaucoup, peut-être dans une équipe qui a pas de résultats, on te le pardonne plus facilement que quand t'es un vétéran. Parce qu'on se dit, ah, ce joueur-là, dans un autre contexte, il serait incroyable. Ouais. Et c'est quelque chose qui se diminue d'année en année. Et tu vois, pour moi, dans une trajectoire similaire à un Devin Booker et un autre joueur dont on va parler, enfin, vous pouvez comprendre qu'on se dirige du côté des Timberwolves. C'est une trajectoire, tu vois, et c'est peut-être son classement est influé par ça, mais dans quelques années, Trae Young joue pas les playoffs pendant 4-5 ans, Trae Young sera jamais mis top 20, parce que je pense toujours que dans l'imaginaire des gens, les playoffs ça compte.
Ah oui, mais totalement, puisque les playoffs c'est ce qui te valide, hein, vraiment. Enfin, on en parlait même en montant un petit peu plus haut dans le classement. Enfin, le numéro 1, c'est par rapport à son CV en playoff, hein. Quand tu regardes bien.
Ouais. De toute façon, moi, alors, je sais pas si je serai là pour le numéro 1, mais moi, je maintiens toujours la théorie qu'il y a un espèce de statu quo sur le statut de meilleur joueur NBA depuis quelques années parce que les cadors s'affrontent pas. Donc, en fait, ça pose un problème insoluble que tu peux pas aller. Si les playoffs sont juge de paix et que les cadors s'affrontent pas en playoffs, c'est insoluble, il y a un problème. Bref. Enfin, s'affrontent pas sur un.
Sur un le terrain. Même terrain, sur un terrain égal, tu vas me dire,
ouais,
sur le
exactement.
Terrain égal.
Exactement.
Ouais, il n'y a pas d'équité, quoi. L'équité n'est pas respectée.
Totalement, totalement. Deux derniers joueurs avant de débuter ce top 20, parce qu'il faut quand même débuter à un moment. Ben Simmons qui se classe 23e et celui qui donc manque malheureusement pour lui le cut, Pascal Siakam.
Ouais.
Ben Simmons, je pense que lui aussi paye un peu la fin de la lune de miel, ce que je t'ai expliqué en gros.
Ouais.
C'était bien beau au début, mais maintenant qu'il a signé son contrat, etc., on attend plus. Pascal Siakam, déception, parce que pour moi, et SO shout out, et on fait un coup
le gang
au gang, au Pascal ou gang, Pascal Siakam est un top 20 joueur NBA en 2020. Pour moi, c'est assez, de par son poste, de par son côté polyvalent, de ce qu'il a fait, alors que moi je doutais après le titre, c'est un top 20 NBA.
Ouais, bah c'est le mec qui est première option de la deuxième équipe de l'Est, hein, cette saison, carrément, hein. Même si je pense que Kyle Lowry est aujourd'hui un meilleur joueur que Pascal Siakam, je trouve que globalement, dans la construction de l'équipe, Siakam, c'est l'équipe de Pascal Siakam plus que c'est l'équipe de Kyle Lowry, quoi. En gros, c'est plus lui la tête d'affiche que Kyle Lowry qui est, entre guillemets, le enfin, role-player, c'est trop péjoratif pour Kyle Lowry, mais tu vois la costard qui a des forces qui permettent de niveler en fait la faiblesse de ton équipe. Et je pense que tu vois, ne pas retrouver Pascal Siakam dans le classement, je trouve que c'est un petit peu dur. C'est vraiment dur par rapport au calibre de la saison qu'il a fait. Et ça prouve aussi que c'est aussi un classement à réaction, puisque je pense qu'en playoff, si jamais on avait eu la chance d'avoir des playoffs, et le fait que, tu vois, parce que Siakam, il s'est blessé aussi au cours de la saison, donc on l'a pas vu, un peu comme Ben Simmons, hein. Ils étaient très 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 forts et puis se sont blessés, donc il y a peut-être aussi la notion d'oubli, sachant que tu as des joueurs qui leur sont passés devant, qui pendant qu'eux étaient blessés, ont flambé. On peut parler notamment de Jason Tatum.
Et puis, le côté, t'en as parlé avec Bam Adebayo, le côté highlight, le côté flashy, ça compte aussi. Enfin, je veux dire, même nous, enfin, quand on fait ce classement, il y a des joueurs qui ont peut-être leur valeur un peu gonflée grâce à ça. Donc, c'est quelque chose qu'il faut pas oublier. Tom, je te prends un peu au dépourvu. Question avant d'entamer le top 20, parmi tous les joueurs qu'on a cités, ceux dont on n'a pas cité, qui sont hors du top 20, lesquels le sont chez toi? C'est-à-dire parmi les joueurs hors du top 20 dont on a parlé, lesquels le sont chez toi et du coup lesquels, on va revenir après, bon, du coup n'y sont pas et ils sont dans le classement général de nos auditeurs.
Alors, moi j'ai Siakam, 20e, et je l'ai juste devant Devin Booker.
D'accord.
J'ai Siakam et j'ai Laurie dans mon classement. Laurie 18e. Quel Laurie 18e?
Ouh, ça, bon, on peut pas revenir sur tous les débats, mais ça, on aurait pu en faire un vrai débat. Personnellement, j'ai aussi Pascal Siakam, et oui, appelez-moi
et Ben
fanboy.
Simmons aussi, pardon, et Ben Simmons, 19e.
Ah, bah Ben Simmons aussi. J'ai Siakam et Ben Simmons, donc ceux qui ratent le cut d'un peu, pour moi, ils sont. Donc voilà, donc on voit d'un côté, on voit Tom que malgré qu'il y a des petites différences, les deux joueurs qu'on fait rentrer, enfin, les deux pour moi sont 21 et 23, et toi, tu fais rentrer un joueur qui est peut-être un petit peu en dessous, 26, 27. Donc on voit que, enfin, la masse de classement fait que c'est assez logique au bout d'un moment. On commence le top 20. Comme l'a dit Tom, système par points, c'est assez simple. Hein. On gagne des points quand on est premier jusqu'à la 20e place, et voilà. Puis on additionne un peu tout, ce qui fait que ça donne plus. C'est un classement qui donne avantage aux joueurs qui sont souvent cités.
C'est ça.
Et ceux qui sont un peu oubliés, on va plus le voir ça pour en deuxième partie. Certains peuvent un peu être éclipsés et être oubliés, surtout parce qu'en fait peut-être certains sont blessés, même si c'est des têtes d'affiche. On le verra.
C'est ça.
On va commencer Tom par un quatuor qui se dégage sur 17, 18, 19, 20. 20e Klay Thompson Golden State Warriors, 19e Karl Anthony Towns Minnesota Timberwolves, 18e Jason Tatum Boston Celtics et en 17e place un ancien Celtics maintenant au Brooklyn Nets, Kyrie Irving. Or, on est sur 4 joueurs qui étaient là la saison dernière à l'exception de Jason Tatum qui fait son entrée dans le top 20. On va commencer directement par ça, Tom. Je ne crois pas que tu l'as toi dans ton top 20, Jason Tatum.
Non, Jason Tatum, il est juste en dessous, il est 22e, juste derrière Devin Booker.
Donc, qu'est-ce qui a fait que tu ne le mets... Selon toi, c'est pas encore un joueur qui mérite le top 20 NBA, Jason Tatum.
Alors, c'est un joueur qui est très fort, qui a énormément progressé, enfin, qui finit la saison, entre guillemets, en boulet de canon. Mais en fait, j'ai trouvé que Pascal Siakam... Et Ben Simmons et Kyle Lowry sont des meilleurs joueurs. Alors oui, Jason Tatum, il a déjà eu un rôle important dans une équipe qui gagne et dans une équipe qui va loin en playoff. D'ailleurs, il a toujours connu les playoffs. Je trouve en fait que Simmons et Siakam et Lowry apportent plus de valeur, même s'ils sont sur une position où c'est peut-être un peu moins nécessaire, puisque Tatum, il joue à l'aile. Mais je trouve qu'aujourd'hui, ce sont des meilleurs joueurs que lui, puisque... Le côté, ils sont tellement forts du côté défensif. Alors Tatum est un bon joueur défensif, hein. C'est un joueur entre guillemets, c'est un joueur d'un bon niveau défensif à l'aile, c'est un bon two-way player. Mais en fait, ces joueurs-là, ils sont vraiment élites en fait défensivement, et j'ai privilégié ça de ce côté-là.
Et puis, je pense que sur Tatum, ça peut s'expliquer déjà par moi. Je t'ai expliqué ça en off. Je pense qu'avoir quand même avoir un classement top 20 joueurs des Celtics. Il y a peut-être un moment, peut-être ce relais de se dire, ah, mais il faut quand même mettre un joueur des Celtics, une équipe, une place forte de l'Est. Et puis aussi, là, la prime à l'attaque. La prime à l'attaque, je pense. Tout simplement. Alors ça, c'est un débat qui est toujours, moi, je sais que c'est un débat auquel je pense dans ma tête beaucoup quand je fais ce genre de classement. C'est à quel point, je sais que l'attaque doit être gonflée par rapport à la défense, mais à quel point je le fais. Pour moi, Tatum, ça montre vraiment qu'on met vraiment l'attaque au-dessus. Après, par rapport à toi, je suis d'accord, je l'ai pas non plus dans mon top 20, je suis d'accord sur le fait que Siakam et Simmons sont meilleurs, selon moi, mais l'alliage attaque, joueur qu'on a toujours vu en playoff et qui marque les esprits, bonne saison du côté des Celtics, je pense que ça fait que bah il se glisse dans le top 20 sans que ça soit scandaleux, hein. Sans que ça soit scandaleux, parce qu'il est, il est pas loin quoi.
Il finit en bout de canon aussi, hein. Je pense que sur les trois premiers mois, il y est pas. Et après, à partir du mois de, à partir de sa nomination au All-Star Game, on a vu littéralement un autre Jason Tatum, hein. Si par exemple la saison commençait aujourd'hui, je pense qu'il y serait peut-être dans, dans le top 20, dans, dans, dans l'inconscient collectif, dans la mémoire collective, par rapport au fait que voilà, il a eu pas mal de grosses, grosses sorties offensives sans que l'impact défensif soit perdu, quoi.
Puis c'est aussi un joueur,
qu'on espérait, quoi.
C'est ça, c'est un joueur qui a connu un haut très haut, saison rookie, saison sophomore difficile, donc je pense qu'aussi, on a envie de croire à leur belle histoire.
C'est ça.
Et on a un Jason Tatum qui revient. Klay Thompson, alors Klay Thompson, c'est marrant parce que moi, quand tu regardes le détail des classements, t'as vraiment l'impression que c'est le mec que tout le monde met 18, 19, 20, ouais. Parce qu'ils veulent, doivent finir le classement. Je dis, ah mince, Klay Thompson. Où je le mets? Je le mets 18, 19, 20. Après, 20, pour moi, c'est pas dénué de sens. Ça reste un top 5, voire plus largement, shooter NBA. Saison tronquée de son côté. Voilà, enfin, personnellement, lui, ça fait partie de ces joueurs qui ont connu des blessures et sur le doute, je suis obligé de le mettre dans un top 20 NBA, mais je peux pas le mettre au-dessus d'autres joueurs. Donc, je lui fais passer, je le mets dans, dans le groupe, mais je peux pas le mettre plus haut.
Ouais, c'est difficile de le mettre plus haut. Après, le truc, c'est que, voilà, il a, on connaît sa valeur, en fait, Klay Thompson. On connaît sa valeur. C'est ça. On voit que, voilà, on sait que c'est, entre guillemets, le, enfin, c'est pas lui faire insulte, mais c'est le 3&D, ultime. C'est vraiment le 3&D, ultime. Parfait compliment.
C'est la Rolls Royce du 3&D, quoi.
C'est ça, c'est le parfait compliment d'une superstar. C'est un joueur qui a, en plus de son niveau de jeu à lui, a une très forte scalabilité, c'est-à-dire que, qui ne perd pas de sa valeur quand il n'a pas le ballon, et au contraire, il permet de donner plus de valeur au collectif.
Il a réussi à le casser.
Il permet de donner plus de valeur au collectif par sa simple présence sur le terrain sans qu'il ait besoin de toucher la balle. Donc voilà, c'est plus... Klay Thompson, il faut le voir comme ce qu'il est et aussi ce qu'il génère, en fait. Et c'est pour ça que tu peux pas l'enlever. Tu peux pas l'enlever.
Ouais, je... Pareil, enfin... Il est... C'est trop une valeur sûre, playoff. Hein. Lui, il combine un peu tout pour qu'il saute. Et tu vois, par exemple, se pose pour moi la question par rapport à un joueur dont on va parler plus haut, c'est Bradley Beal.
Ouais.
La question, pour moi, elle se pose même sur une saison tronquée d'un Klay Thompson qui vieillit, n'empêche, qui vieillit.
Ouais. Et qui s'est blessé.
Ça se pose toujours, tu vois. Enfin, moi, ça, je vais pas dire choqué, c'est un gros mot, mais voir un Bradley Beal 5 places... 5 rangs plus haut qu'un Klay Thompson, il n'y a pas 5 rangs d'écart.
Non, c'est vrai, il n'y a pas 5 rangs d'écart. Mais après, Bradley Beal, voilà, il est dans une position où le méchant John Wall n'est plus là. Donc, il prend toute la lumière sur l'équipe, il fait les stats et il est dans un système qui lui permet de faire des stats à foison. Sauf que lui, par opposition avec Trae Young, il a déjà montré des choses en playoff. Donc ça, on le retient pas contre lui. Et la dernière fois qu'on a vu Bradley Beal en playoff, il était aussi à son avantage. Donc du coup, tu peux pas lui, tu peux vraiment lui rester. Tu te dis que c'est quelque chose de situationnel. Que voilà, il défend pas aujourd'hui, cette saison, il défend pas. Ben, tout simplement parce qu'il a pas une équipe pour défendre, donc il défend pas. Il améliore son jeu offensif et il tourne quand même à 30 points par match. C'est énorme, 30 points par match.
Et puis par rapport à, tu vois, on parle beaucoup de cette saison, moi j'ai toujours eu ma théorie,
ouais.
Là je vois vraiment que Tom avait raison dans le 200, je dis beaucoup ma théorie c'est vraiment que je pense que la perception collective de nous tous, même nous tu vois aficionados de l'NBA et d'autres, il y a un an d'écart entre ce qu'on voit du joueur et ce qu'est le joueur. Donc en fait, le fait qu'un mec défende pas, ou le fait que par exemple tu vois Isaiah Thomas top 20 NBA l'année dernière, sur la saison, pour moi, c'est indéfendable qu'il soit top 20, mais dans notre imaginaire, il est peut-être encore top 20 sur ce qu'il a fait, et on s'adapte un an après, il a même pas un vote.
Ouais.
Il y a peut-être de ça, et le fait que Bradley Beal, tu vois, soit dans une espèce de tout pour l'attaque, et je défends pas, on le tient pas rigueur, parce que tout simplement, on a un moment où, de par la situation collective et l'adaptation qui prend un peu de temps, dans la conscience collective, on lui tient pas encore rigueur de ça. Tout simplement.
Pour donner un ordre d'idée pour la défense des Wizards, hein, quand Bradley Beal est sur le terrain, le defensive rating des Wizards est de 117.
Pour prendre une expression à la Alan, c'est la ligne Maginot, quoi. Ouais. Alan aime bien dire ça. C'est la ligne Maginot, ouais, tout simplement. On remonte. Le numéro 19, on en a un peu parlé, voilà, sans citer son nom, Karl Anthony Towns. Tom, moi, c'est toujours... J'ai l'impression que, sans me faire de fleurs, j'ai l'impression que... pas être en symbiose, mais je commence à... Enfin, ma vision de Towns est de moins en moins écartée de celle, je dirais, de la plupart de nos éditeurs. C'est qu'en fait, à un moment, la lune de miel, elle est terminée. C'est un joueur dominant, bien sûr, top 20 NBA. Moi, enfin, vraiment, ça faisait partie des joueurs où j'hésitais. Mais je peux pas le mettre plus haut parce que il y a une série de playoffs et, enfin, mettre des cartons. Moi, c'est toujours ma phrase bateau. Mettre des cartons contre les Pistons en février, c'est pas ça qui te fait monter dans le classement pour moi.
Lui, là, malheureusement pour lui, il est dans une équipe qui a subi beaucoup de chamboulements. Puisque globalement, hein, quand tu regardes ses chiffres individuels, ils sont excellents, ils sont même meilleurs que la saison d'avant. Alors que la saison d'avant, il était quoi? Il était 13e du classement. Il était beaucoup plus proche de Jokic et Embiid. Et là, il y a vraiment plusieurs rangs d'écart entre les trois, quoi. Un peu comme tu as dit avec Devin Booker, hein, c'est un peu le plafond de verre. Le fait que, tu vois, la dernière image de lui que tu as eue en playoff, c'était pas ouf et que là, il n'arrive pas à se qualifier, ben, on commence à se poser la question, est-ce que c'est pas un joueur qui stade simplement dans le vide? Alors, c'est pas une expression que j'aime forcément, hein, puisque voilà, il faut les mettre, les points. Il faut les mettre avec une telle efficacité, ces points-là. Mais au bout d'un moment, il y a des... Tu vois, pour moi, c'est le fait que les Wolves soit aussi mauvais en défense quand il est sur le terrain, c'est pas normal. On a vu quand il s'est blessé, l'équipe est redevenue moyenne en défense alors qu'il y avait Gorgui Dieng. Alors oui, ils ont sombré offensivement. Alors, simplement en mettant Gorgui Dieng, entre guillemets, en intégrant Gorgui Dieng dans le 5, bah, l'équipe est devenue passable, moyenne en défense. Alors que quand Towns est sur le terrain, c'est pas possible. Et vu le projet de jeu de vouloir en faire ton seul, entre guillemets, intérieur, et de vouloir jouer avec un ailier moderne, entre guillemets, à côté de lui au poste 4, moi, ça me pose énormément de questions. Hein. Ça me pose énormément de questions. D'ailleurs, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, lors de notre podcast reconstruction des Wolves qu'on vous invite à écouter, on avait penché plutôt sur un profil comme Serge Ibaka pour jouer à côté de lui, parce qu'il a toutes les capacités défensives et tout ça. Quoi. Donc, Towns, il commence à avoir pas mal de questions, et je me demande si, au fur et à mesure, il se fait pas dévaluer un peu comme s'est fait dévaluer des Marcus Cousins.
Je pense qu'il y a de ça. Il y a, au bout d'un moment, Tom, tu vois, tu parles des évolutions en saison. Je pense vraiment qu'à un moment, et je fais un peu partie de ça, des gens-là, tu sais, en fait, Booker et Towns, pour moi, c'est validé, c'est des très bons joueurs.
Ouais.
Joueurs dominants. Donc, au bout d'un moment, les évolutions à l'intersaison, etc., les petites touches, intéressant. Mais maintenant, le juge de paix, ça sera pour eux, ils sont validés. Le juge de paix, ça sera les playoffs, affronter, voilà, voir ce que tu peux faire quand, sur des situations de très très haut niveau. Je pense, sans me faire le porte-parole des auditeurs, parce que je le suis pas, mais je pense qu'il y a vraiment cette sensation-là de se dire, ok, on sait, vous êtes bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire en playoff? Et puis aussi, Tom, c'est des mecs qui sont, comme je te l'ai dit, tu vois, quand il y a un peu l'effet boom, l'effet jeune joueur est passé, c'est des joueurs, en particulier dans les marchés dans lesquels ils jouent, Phoenix, Minnesota, ils sont plus mis en avant.
Ouais,
donc
ouais,
en fait, mis à part jouer les playoffs, il y a aucun moment ils auront de
l'All-Star
Game, l'exposition.
Il y a que l'All-Star Game, quoi, ou sinon s'ils font des
c'est
cartons.
C'est ça. Donc en fait, ce que t'entends de Karl Anthony Towns, c'est les cartons qu'il met toutes les nuits, les matchs qu'il perd, et sa qualification All-Star Game, et le fait qu'il fait toujours pas les playoffs. Ouais. C'est ça, on peut se résumer de sa saison à gros traits, tu vois.
Ouais.
Donc je pense que dans l'imaginaire, ça joue beaucoup. On peut continuer avec le joueur à 17e place, alors que mon voisin, c'est la première fois que ça m'arrive dans l'histoire de Dunk Hebdo, j'ai l'impression que mon voisin est en bataille avec sa copine. J'espère que les auditeurs vont l'entendre, parce que c'est un grand moment que je vis en ce moment, de faire un podcast avec une scène de ménage que je peux entendre. C'est un grand moment que je vis actuellement. 17e, j'essaye de rester concentré, Kyrie Irving. Alors Tom, je n'ai pas Kyrie Irving dans mon top 20. Je ne l'ai pas parce que, et alors que je suis quelqu'un qui a toujours évalué le jeu de Kyrie Irving à très très haut niveau, j'estime que 20 meilleurs joueurs NBA, la question de la capacité à rester sur le terrain est quand même primordiale. Kyrie Irving, maintenant, c'est pratiquement un fait que... Enfin, pour ce classement, dans mon idée, parce que on a chacun nos critères, moi, c'est pas les 20 meilleurs joueurs NBA quand ils sont sur le terrain. C'est les 20 meilleurs joueurs NBA et l'état physique rentre. L'état physique de Kyrie Irving n'est pas bon. Donc moi, ça rentre en compte. Et je commence à me dire que il est tellement utile à un très, 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 très haut niveau de compétition qu'en fait...
il est inutile, il en devient inutile, quoi, limite.
Il en devient... Enfin, il est utile sur trop peu de matchs pour qu'il rentre dans un top 20. C'est mon avis. Après, je sais, c'était ma take la plus extrême, mais je mets pas Kyrie Irving dans mon top 20 actuellement.
Moi, je trouve que Kyrie, en fait, il souffre beaucoup de ce qui se passe hors terrain par rapport à ses performances terrain, en fait. Parce que quand il est sur le terrain, comme tu dis, hein, là encore cette saison, quand tu regardes Kyrie Irving cette saison globalement, quand il est sur le terrain, il est monumental. Il est monumental, Kyrie Irving, cette saison. Mais le fait que voilà, les Nets, ça fonctionne pas très bien, que voilà, qui tout ce qui s'est passé hors terrain, le limogeage d'Atkinson, nouveau coach, tout ça, enfin tout ça, en fait, t'as l'impression que enfin voilà, Kyrie Irving, c'est un mec à t'as l'impression que Kyrie Irving, en fait, c'est un mec à problème, et qu'en fait ce qu'il rapporte sur le terrain, même si c'est ça a de la valeur au plus haut niveau, ben ça vaut pas tout le drama qu'il y a autour. Et j'ai l'impression que ça atténue en fait la valeur qu'on a du joueur et sa valeur terrain, un peu comme c'est arrivé à Jimmy Butler l'an dernier.
Ça, je peux le comprendre. Je pense que ça joue pour certaines personnes. Moi, j'avoue vraiment, pour vous faire rentrer dans mon cerveau, c'est vraiment l'argument blessure de notre top 20. C'est le joueur le plus souvent blessé, on est d'accord, avec le joueur qui vient juste après lui.
Ouais, c'est ça. En gros, enfin, Kyrie Irving, c'est le sprinter par excellence. Et si tu vas courir un marathon, t'en as pas besoin, quoi.
C'est ça. Et j'estime qu'on est peut-être à un tournant où on verra. De toute façon, la saison prochaine, enfin, si elle se joue dans un monde qu'on espérera qui restera quand même à peu près sans dessus dessous, Kyrie Irving fera partie des joueurs sur lesquels je mets une croix et je me dis, ok, c'est un juge de paix cette saison-là. Ça va me permettre de vraiment comprendre ce qu'est Kyrie Irving. Parce que Kyrie Irving, on a quand même depuis même la dernière saison à Cleveland, moi, je navigue un peu à vue, hein, pour être honnête.
C'est vrai. C'est vrai. Enfin, limite, tu vois, là, c'est limite le passage à Boston, ça a été vu comme une parenthèse. Hein, alors qu'à Boston, il fait de bonnes saisons aussi, hein, Kyrie Irving. Il fait de bonnes saisons à Boston. Mais tu vois, tout ce qui s'est passé en dehors du terrain a impacté la vision des gens sur lui en général.
Est-ce que Tom, il paye pas aussi de son, en fait, d'être parti trop loin, trop vite, parce que il est quand même, il fait des finales fabuleuses, surtout sur les derniers matchs avec LeBron, et peut-être qu'on s'est dit, ah, c'est Kyrie Irving est capable de ça, et du coup on lui a peut-être mis des standards impossibles, en fait, impossibles à relever.
Bah, surtout que voilà, en playoff aussi, Kyrie Irving l'année dernière en playoff, c'est bizarre aussi ce qu'il fait. Enfin, il est sorti vraiment, il a quitté les playoffs sur la petite porte, hein, en demandant des iso à foison sur Giannis, fait n'importe quoi. Enfin, Alan
et
pourra
pour
bien
joueur
en parler.
Pour lequel, hein, tu vois, l'argument de vente principal, c'est très
c'est un
bon
joueur de
playoff. C'est pas une bonne dernière impression, ça.
C'est vrai que les derniers playoffs jouent beaucoup, je pense aussi, sur son image.
On remonte. Alors, on va pas parler de Bradley Beal puisqu'on l'a déjà fait. Chris Paul, Tom, alors là, j'ai envie
Chris
de dire
Paul.
À Pierre et à tous les fans d'OKC, c'est le bon moment, bradez-le au Knicks, et puis voilà, enfin, franchement, c'est le bon moment, ni vu ni connu, ça passe.
Chris Paul qui est longtemps, hein, depuis très très longtemps dans nos débats des meilleurs joueurs NBA, moi ça me fait plaisir de le voir dans ce classement-là, puisque c'est un joueur qui a vraiment subi une très mauvaise presse quand il était... à Houston même, et surtout après la signature de son contrat, même l'an dernier il n'était pas très bien. Donc cette saison il a montré que c'était le patron. Bon, on a entendu comme quoi il a changé un peu son alimentation. Maintenant il s'alimente essentiellement à base de plantes, et qu'il est devenu vegan, il me semble aussi, CP3. Donc du coup on a eu une saison de CP3 revigorée, écoute, hein, et excellent, qui permet à OKC de gagner énormément de matchs, sachant que bon, OKC a un bon bilan avec énormément de performances dans les matchs serrés contre des équipes moyennes, et c'est grâce à CP3 en fait s'ils ont ce bilan là, puisqu'on le rappelle, un gars qui a 32 d'usage et 68% de true shooting, alors qu'il prend essentiellement du mid-distance dans le coude à 2 points, c'est exceptionnel ce qu'a fait Chris Paul cette saison, et je pense qu'il sera même deuxième équipe All-NBA, alors qu'il n'a pas forcément des stats hyper gonflantes, quoi.
Avec la surprise au Casey. Moi, franchement, ma seule analyse restera... Enfin, deux analyses. Peut-être parenthèse enchantée. Je suis pas sûr que...
L'an prochain, il fasse ça.
Ouais, dans 18 mois. Et puis, bradez-le au Knicks. Voilà, ce sera mes deux seules analyses. On remonte. 14-15. Un duo.
Le duo.
Hyper intéressant, Tom.
Duo inséparable.
Parce que c'est des joueurs sur lesquels... Avec lesquels la perception, j'ai l'impression, elle est extrêmement mouvante dernièrement. Je parle de Jimmy Butler et de Paul George dans l'ordre que je viens de dire. C'est-à-dire que Jimmy Butler est avant Paul George. Ça aussi, enfin, il y a quelques mois, difficile de l'imaginer. Tom, je sais que tu voulais en parler, ça. Paul George, selon toi, un joueur dont la perception a énormément changé récemment.
Ouais, je pense que sa perception a changé. Je pense que si tu fais le classement il y a 2 ans, Paul George, il est plus bas. Si tu prends ce classement-là en début de saison par rapport à la saison qu'il a faite à OKC l'année dernière, il est clairement dans le top 10. Et là, tu vois qu'il retombe un peu. Donc lui aussi, il a subi pas mal de blessures. Avec les Clippers, on l'a pas beaucoup vu. Il n'était pas forcément à son avantage tout le temps. Après, ben voilà, c'est un gars qui est blessé à l'épaule, qui est plutôt un joueur d'adresse. Donc... je pense que ça joue énormément. Et quand tu vois par exemple le chassé croisé avec Jimmy Butler l'an dernier, qui a une presse horrible entre le mini camp là, quand il arrive, il demande son transfert, il arrive avec la troisième équipe, il se fait transférer de force aux Sixers. Il est pas content. Enfin, il y a des problèmes en interne avec Ben Simmons et Brett Brown. Ensuite, il va signer après à Miami. Et là, tu vois la saison avec Miami. Il est le patron de l'équipe. Et voilà, ça fonctionne totalement bien. Et je pense que ça contribue à comment dire, ça contribue à revoir entre guillemets son image. Puisque Jimmy Butler, c'est quelqu'un qui avait une très mauvaise presse. Et je pense que si on faisait le classement en début de cette saison-là, je suis pas sûr que les gens le mettraient top 20 par rapport à tout ce qui s'est passé en externe, un peu à la Kyrie Irving.
Mais par rapport à Paul George, moi, je pense vraiment... Alors, une autre de mes théories, il est aussi desservi parce que en haut, on a des cadors qui se maintiennent depuis quelques années et on a des nouveaux arrivants qui tapent fort. Donc en fait, mécaniquement, vu que Paul George n'a pas explosé, il descend aussi.
Bah, mais tu vois, c'est assez bizarre que tu dis ça parce que l'an dernier, il fait sa meilleure saison en carrière.
Mais tu vois, sans révéler le top 10, par exemple, on a un joueur en 9... qui est même pas dans l'équation il y a 2 ans, et enfin ça, il est assez indiscutable maintenant. Il y a la confirmation, il était déjà devant, mais il y a la confirmation Anthony Davis, il y a la confirmation par rapport à 2-3 ans, il y a la confirmation Giannis. Enfin, tu vois, ça avait tous des joueurs qui pouvaient peut-être être mis parfois un peu dans le même lot, qui ont explosé. Et sachant qu'en haut, ça bouge pas, parce que les têtes d'affiche, les LeBron, les Kawhi, les Harden, les Durant, les Curry, ils sont toujours là. Bah, au bout d'un moment, mécaniquement, t'ajoutes 2-3 mecs,
et il finit par descendre.
Et puis bien sûr, je pense qu'aussi oui, sa saison joue contre lui. Et moi, je trouve vraiment le duo Butler-PG super intéressant à débattre collé, parce que j'ai l'impression que tu peux difficilement prendre deux joueurs plus opposés quand même. Hein.
Ouais.
Style de jeu, caractère, vision dans les médias, c'est deux pôles opposés. Hein. C'est fascinant.
Totalement, surtout que voilà, Jimmy Butler, lui, il a choisi d'être la première option et d'avoir son équipe. Alors que Paul George a fait le pari totalement inverse, où il a voulu se muer en lieutenant, quoi.
Deux fois de suite, ouais.
C'est ce qui est assez bizarre, en fait, avec Paul George, qui commence sa carrière en étant un peu une superstar, quoi, limite. Hein. Il commence, Danny Granger part, se blesse, et c'est l'équipe de Paul George, quoi. Alors que Jimmy Butler, lui, il a eu un parcours où il a dû se faire lui-même. Et tu vois que, pour moi, franchement, Jimmy Butler, je pense que c'est l'ailier peut-être le plus sous-estimé des 10 dernières années.
Ah, mais moi, c'est...
Il est énorme, Jimmy Butler.
C'est un secret de polichinelle. J'adore ce joueur, donc je suis assez d'accord avec toi. J'adore ce joueur. Enfin, sur la décennie, il est top 10, il est top 20 NBA, je pense. Pas loin, sur la décennie.
Il est énorme, Jimmy Butler. Quand je vois, je me souviens qu'il y a quelques années, il y avait des discussions, Gordon Hayward meilleur que Butler. Bah non, les mecs.
Ouais. Non, mais ça se défend. Après, tu vois, tu m'as fait penser à cet argument-là pendant que tu parlais. Paul George, si tu regardes, en fait, le classement global qu'on a, si tu as une exception près peut-être, mais c'est un joueur tellement qu'on sait dominant et qui a Kevin Durant, vous comprenez. C'est Paul George, c'est le joueur le plus haut qui sur ses 4-5 dernières années, enfin non, sur ses 3-4 dernières années, est pas première option quelque part. Il y a pas un joueur plus haut que lui qui a jamais été première option sur les quelques dernières années. Ouais. Donc est-ce que c'est pas aussi un peu le plafond de verre qu'on impose à un joueur où les gens se disent au bout d'un moment, t'es pas le patron de ton équipe aussi.
Ouais,
tu peux
c'est
pas
vrai.
Être top 10 si t'es pas le patron de ton
ouais,
équipe.
C'est vrai. Tu peux pas être c'est vrai, c'est vrai. Ça c'est un point totalement valable. Un point totalement valable. Et c'est limite la deuxième option la plus haute. À part à part un joueur qui est deuxième option aujourd'hui, qui a été transféré cet été, qui est devenu deuxième option. Mais c'est lui c'est la deuxième option la plus haute, hein, Paul George. Hein,
c'est ce que je te dis. Ça, je pense que c'est un autre plafond de verre, c'est celui de se dire tous les mecs devant tiennent des équipes qui vont toutes, à part exception, en playoff. Au bout d'un moment, je peux pas te mettre plus haut. Il y a peut-être ce raisonnement là derrière. On continue à monter, Tom, parce que si t'as quelque chose à rajouter sur deux joueurs là.
Le duo
de pivots, du coup, parce que je vous avais dit, hein, après Rudy Gobert, on avait quatre pivots classés plus haut. Bon, vous devinez que celui qui est top 10, c'est Anthony Davis, si on classe comme pivot. Le duo Jokic-Embiid. Jokic devant Embiid. Tom,
est-ce que...
on continue dans les deux opposés. Tom, est-ce que ça nous dit pas plus sur la vision des pivots que sur ces joueurs-là, les classements?
Je sais pas si ça nous en dit plus sur la vision des pivots, puisque, enfin bon, après, tu vas me dire que par rapport à la vision globale qu'il y a au niveau des pivots en France, on est entre guillemets, on colle plus avec ce qui se passe aux États-Unis sur le rôle du pivot et la position du pivot. Moi, je trouve ça surprenant au final que finalement, les auditeurs ont décidé que Jokic, quand tu prends le calcul des votes, Jokic était le meilleur pivot NBA. En gros, c'est ce que ça veut dire. C'est le pivot le plus haut placé du classement. Pourtant, moi, j'ai l'impression, en fait, que même quand tu regardes la compilation des votes, hein, ils sont leur plus haute place et au même niveau aussi, tu vois. Non, la plus haute place de Embiid est beaucoup plus haute que la plus haute place de Jokic.
Total. Et juste un petit point avant de te laisser continuer sur Embiid, tu parlais beaucoup de la perception et des joueurs qui payent un peu de leur perception dans les médias. Embiid, il est passé de joueur adoré à joueur les gens sont très vocaux sur ça, pas forcément l'apprécier. Le virage à 180, il est assez violent aussi de ce niveau-là.
Après, c'est vrai qu'il
paye de ça.
Il paye de ça. Après, Embiid, le seul truc qu'on peut lui ajouter, hein, c'est que c'est le seul joueur, entre guillemets, qui est hors du top 5, qui a eu un vote qui était dans le top 5 de tout le monde, dans le top 20 de tout le monde. Toutes les personnes qui ont voté ont mis Embiid, alors qu'il y a des joueurs qui sont un petit peu plus haut, qui sont pas dans tous les top 20. Donc ça peut-être, ça nous dit, en fait, c'est un mec qui, contrairement à ce qui se passe sur le terrain de basket, hein, c'est un mec qui est dans l'esprit des gens par rapport à la longueur, mais pas forcément par rapport à son pic.
Personnalité.
C'est ça.
C'est un personnage NBA.
C'est ça.
Joel Embiid. Donc c'est pour ça.
C'est le mec plus fort. Et tu vois, ce qui m'étonne, sans te couper, c'est que si je m'imagine en fait que si on pose la question, à 100 personnes, je pense que tu en as 80 qui prennent Embiid avant Jokic par rapport à ce qu'ils attendent peut-être d'un pivot aujourd'hui.
Tu parlais de le biais récent. Il joue peut-être aussi en faveur de Nikola Jokic. Surtout, vraiment que moi, la sortie en playoff des Sixers, je pense qu'elle fait très mal à Embiid, Butler et Simmons. J'en reste persuadé. Qu'elle leur fait extrêmement mal.
C'est pas Embiid, il était, enfin, quand tu regardes les chiffres,
Embiid,
il est à plus 100 quand il est sur le terrain, quoi. Il est à plus 100 quand il est sur le terrain.
Tu vois, moi, je pense qu'aussi, il y a une dimension, et même moi, tu vois, quand tu fais ce classement-là, parce que t'arrives à un moment où c'est tellement sur du subjectif, tellement sur du détail, qu'il y a peut-être des images qui marquent, et l'image d'un Kawhi, même si l'histoire, tu vois, elle est pas comme ça, mais l'image qui a été racontée d'un Kawhi qui terrasse Embiid, Simmons et les autres sur la fameuse photo que tout le monde a vue, ça joue peut-être un peu dans l'inconscient aussi. Parce que moi, tu vois, clairement, dans mon classement, Embiid est devant Jokic. Enfin, moi, Jokic fait partie des joueurs que je trouve intrinsèquement pose des problèmes tels en playoff qu'il est rétrogradé de quelques places.
Mais après, Jokic, on n'a pas encore vu, il n'a jamais été vraiment exposé à ces problèmes-là en playoff, malheureusement. Enfin, Il a jamais été exposé, tu vois. Il a pas. Jokic, il y a pas une série où il a été mis en difficulté pour l'instant en playoff. Hein.
Parce que je pense qu'il a pas. Enfin bref, là c'est.
Il a pas affronté. C'est qu'il a pas affronté les équipes élite, tu me diras. Tu vois, il a affronté les Spurs et Portland.
Après, on va me dire, Benjamin, il est jamais satisfait. Il veut alors déjà que les mecs aillent en playoff. Ensuite, ils veulent qu'ils jouent des équipes très fortes en playoff. Oui, je suis insatisfait. Je suis français. Ouais, vas-y, Tom.
Mais en fait, ces deux joueurs-là, c'est assez marrant parce que ce sont des gens vraiment qui sont à l'opposé dans la valeur qu'ils apportent à leur équipe. Là où tu as Joel Embiid qui t'assure, entre guillemets, d'avoir une défense dans le top 10, tu as Nikola Jokic qui est censé t'assurer d'avoir une attaque dans le top 10. Et en fait, alors qu'on se dit que le poste de pivot aujourd'hui, c'est un poste vraiment plus défensif, Jokic, il est tellement singulier par sa façon de jouer et par tout ce qui permet. Enfin, tout. Toute la comment dire, tout ce qui permet à tes jeunes joueurs de ne pas avoir, mais de quand même avoir une équipe fonctionnelle. C'est-à-dire que tu vois, si tu as Joel Embiid, tu peux pas avoir Jamal Murray à la main, par exemple. Tu vois, parce que l'équipe ne va pas fonctionner correctement. Sauf qu'avec Jokic, c'est quelque chose qui peut passer parce qu'il a tout le playmaking. Parce que Jokic, il est pivot, mais globalement, c'est le meneur de jeu de Denver. Hein. Enfin, c'est lui qui touche tous les ballons, le jeu passe par lui essentiellement. Donc au final il joue, c'est le mec offensif, c'est un peu le mec qui est vraiment hors catégorie, et je pense que ce que les gens ont plus valorisé de ce côté-là, c'est vraiment le côté diffusion, pas j'aime pas encore une fois cette expression, pas rendre les autres meilleurs, mais faciliter le travail de tous les autres pour permettre à l'équipe de fonctionner mieux, là où Joel Embiid va se suffire à lui-même entre guillemets. Le simple fait d'être là va mettre un niveau plancher très haut qui va faire que ton équipe est bonne. Mais Joel Embiid, c'est pas lui qui va permettre à d'autres joueurs de fonctionner.
Alors là où Tom est dans les explications basket, je continue à faire de la psychologie de comptoir. Je pense qu'aussi, Jokic a un côté d'abord esthète qui
aussi,
doit plaire.
C'est vrai.
Et deuxièmement, il y a aussi un petit côté... Enfin, la plupart des gens qui ont voté sont européens, on peut le deviner. Il y a peut-être aussi la fierté, tu vois, du côté esthète européen, qui fait peut-être que même si on a beaucoup, on sait, on a des fans ancrés NBA, peut-être que là où un Embiid, en plus, moi, je reste persuadé que Embiid, il pâtit de sa présentation médiatique
récente. Et même cette saison, hein, Embiid, la saison des Sixers est un peu décevante, du coup.
C'est ça. Donc en fait, il a tout l'environnement collectif pour que son Enfin, l'environnement fait que le jugement individuel qu'on lui apporte est, enfin, il a rien de positif autour de lui. Ce qui fait que là où Denver, tu vois, c'était pas le cas. Donc voilà. Tom, on va peut-être conclure cette émission avec le choix. Alors là, je t'en ai parlé avant de commencer cette émission. Celui-là, je pense que, alors, il y a un confinement, mais toi, t'es en France. J'estime que Pierre va pas prendre l'avion pour aller en Corée du Sud pour me mettre une poire. Donc, je suis assez rassuré à ce niveau-là. Westbrook, 10e, Tom. Alors, moi, j'avoue, parce que tu sais, tu vois, je t'ai dit, je suis un peu rassuré par rapport à ça. Il me trouvera pas, de toute façon. Je l'ai pas à ce niveau-là. Je trouve que, encore une fois, pour moi, c'est un joueur qui peut-être, sur le nom, gratte quelques places. Je l'ai pas 10e joueur NBA.
Moi, je l'ai 15e, juste derrière Paul George.
Ah, donc tu fais passer le lieutenant devant le général.
Oui, je dirais. Par rapport à... Mais le truc, c'est... Enfin, Westbrook, il a quelque chose... Encore une fois, tu vas dire que je vais le placer, mais là, la scalabilité de Westbrook, elle est pas bonne.
Deux fois. Oh, qu'est-ce que c'est bon.
elle est pas bonne par rapport à un Paul George. Et en fait, Westbrook, en première option... Regarde tous les changements, en fait, pour que Westbrook puisse recommencer à carburer. Regarde tous les changements que les Rockets ont dû opérer pour que ça puisse fonctionner. Les mecs jouent sans pivot. Enfin, classique. Les mecs jouent sans pivot classique. Alors que tu vois, ça c'est un jeu qui conviendrait totalement. Donc les mecs ont affaibli entre guillemets le jeu d'Harden, puisque Harden, on peut dire ce qu'on veut, c'est un joueur de pick and roll. Alors oui, il a développé énormément de jeux en 1 contre 1 et il arrive à être assez efficace sur ça. Mais si tu demandes je suis sûr que si tu demandes à James Harden, on te met un rim runner et tu joues du pick and roll, ou sinon tu fais que de l'iso, je pense qu'il préfère vachement, et je pense qu'il sera beaucoup plus efficace à faire que du pick and roll, hein. Puisque quand on l'a vu, hein, la première saison sous Mike D'Antoni, il est énorme, James Harden. Même la saison avec Chris Paul, ils sont énormes, ces Rockets, cette équipe des Rockets là. On parle souvent des OKC 2016 et des Cavs de 2017, mais les Rockets de 2018, ils étaient très très forts.
Alors bon, je vais continuer à me mettre dans le risque. Pierre, on en a déjà eu ce débat là. Pierre a dit oui, c'est vrai que sur les quelques matchs avant le confinement, tu vois, enfin Westbrook fait une quelques semaines, quelques mois très très bons. C'est ouais. Vraiment en fait pour moi, c'est un exercice dans lequel les 20 meilleurs joueurs NBA, c'est extrêmement abstrait, mais il faut un peu sortir le joueur de son contexte.
Ouais.
Et tu vois, si tu sors le joueur de son contexte, je suis pas persuadé que Westbrook est devant certains des joueurs qu'on a précédemment cités. Enfin, personnellement. Après, c'est un avis très personnel, mais je trouve qu'il est un cran en dessous, tu vois. Parce que même quand on voit le détail des votes, si on regarde plutôt sur le classement général et la note générale, enfin, Westbrook est en plus dans un espèce de no man's land entre les joueurs qu'on a cités avant et le groupe d'après.
Ouais, c'est ça.
Il y a peut-être aussi, je pense qu'aussi, il y a peut-être, et on le voit dans le détail des votes, il y a peut-être un truc où on se dit, on est un petit peu à croiser des chemins avec Westbrook, et du coup, enfin, on est sur une latitude qui va de 5 à 18. Enfin, on sait pas trop le placer. Je pense que ça répond un peu aussi dans le contexte dans lequel il joue. C'est assez compliqué, c'est une évaluation difficile, Russell Westbrook, cette année.
Ouais, même plus que cette année. Après, tu vois, Russell Westbrook, ça a toujours été un joueur clivant, entre guillemets. Ça a toujours été un joueur clivant. T'as des gens qui aiment beaucoup Russell Westbrook, et t'as des gens qui n'aiment pas forcément ou qui entre guillemets dilution. Tu vois le débat qu'on a sur Russell Westbrook, ça ressemble vachement au débat qu'il y avait sur John Wall il y a quelques années en fait.
Je demande plus d'explications.
C'est-à-dire qu'en fait tu sais que le joueur est bon, mais que t'as un plancher. Enfin, il est très bon dans ce qu'il fait, mais que tu peux pas rajouter un mec aussi fort que lui dans l'équipe pour qu'il garde toute sa valeur. Parce que lui, il lui faut la balle en main. Et je pense que c'est vraiment là où tous les joueurs qui sont en eux, tu peux leur ajouter un mec à côté très fort, ils vont quand même fonctionner. Et Westbrook, je pense que c'est le seul des joueurs qui sont... Enfin, quand tu compares les joueurs qui sont plus hauts, certes, ils ont tous la balle en main, mais si tu leur ajoutes un joueur aussi fort et qui a besoin de la balle, ça va pas être du moins-moins.
Je vois, je comprends ce que tu veux dire. Et juste pour, on va conclure là-dessus, le côté clivant. Alors, Pierre sera pas d'accord avec moi, parce que Westbrook reste un joueur, qui a des détracteurs acharnés, mais j'estime qu'on est moins sur, l'acharnement est moins présent qu'il y a quelques années. Parce que, enfin, c'est stratégique. Hein. Un des cœurs de l'acharnement venait des fans de Houston qui sont contractuellement qui peuvent plus le critiquer en fait. En fait, il y a une espèce de cessez-le-feu qui a été voilà engagé et du coup ils peuvent plus le critiquer. Mais on a parlé d'un mec. Alors les niveaux sont différents, hein, mais on a parlé d'un joueur comme Draymond Green. En termes de joueur clivant, Draymond Green, c'est quand même pas mal. Tout le monde s'accorde sur, enfin, la détestation de Draymond Green, on a passé le cap maintenant. Ouais. Pour moi, on n'est pas encore arrivé au moment où Westbrook est pas assez bon pour que ses détracteurs, ouvrent le champagne. Enfin, il a toujours les gens qu'il aime. Et d'ailleurs, Westbrook, enfin, moi, ça me fait un petit peu toujours marrer avec ces joueurs clivants. On met toujours en avant les personnes qui ne l'aiment pas. Westbrook, il a aussi des gens qui l'adorent, comme très peu de joueurs NBA. Ouais. Par exemple, Westbrook a plus d'adorateurs qu'un Kawhi, qu'un Anthony Davis, qu'un Kevin Durant. Je pense que ça peut se défendre. Mm. Et, enfin, je cite les joueurs du top 10. Bien sûr, on les devine sans parler de ceux qui sont peut-être un petit peu plus surprenants. Ça reste un joueur que, tu vois, on parlait des personnalités, c'en est une de la NBA, Westbrook.
Ouais. Après, je pense que Westbrook, c'est aussi beaucoup un joueur de joueur, entre guillemets. C'est un joueur de joueur par rapport à, voilà, c'est un gars, tous les soirs, tu sais que il va se donner, tu vois, c'est un gars qui est très respecté par rapport à son éthique de travail, par rapport à la volonté et la hargne, en fait, qu'il a sur le terrain. Et, là où, si tu veux, c'est pas un joueur aussi très analytique friendly, entre guillemets. Donc, je pense que ça joue aussi dans le rôle des, enfin, ça joue aussi dans l'opinion des observateurs. Et c'est pas quelqu'un aussi qui est très gentil avec les journalistes, entre guillemets. Tu vois, c'est pas, voilà. Donc, je pense que ça joue autour de l'image, en fait, qui a autour de lui. Et, je pense que ça influence pas, je dirais pas que ça influence, mais ça joue aussi un peu sur la façon dont l'évalue, tu vois. Les journalistes vont moins laisser passer ses déficiences, entre guillemets, parce que c'est pas quelqu'un qui est sympa avec eux.
Ouais. Totalement. Il a raté les cours de com, hein, les cours de com du rookie training camp. Il les a pas fait. Clairement, il préférait regarder les Tortues Ninja peut-être. Alors, on en a fini, Tom. Première partie. On est donc allé de 11 à 20. On récapitulera tout ça, bien sûr, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à réagir, notamment sur Twitter. D'accord, pas d'accord. N'hésitez pas à nous laisser des messages, nous suivre sur les réseaux sociaux, bien sûr. Nous noter sur iTunes, je vous l'ai dit, mon côté Monk ne peut plus supporter 148-149. S'il vous plaît, faites-moi passer ça à 150. Dans le contexte actuel, bien sûr, on vous souhaite de prendre soin de vous et de vos proches. Et on se retrouve très vite, Tom, pour la seconde partie. C'est là que les vrais débats vont commencer.
Aïe, aïe, aïe.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.